écoutez Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. C'est pour des raisons religieuses, semble-t-il, qu'un homme a été tué hier soir à Bordeaux, un autre blessé. L'assaillant, qui serait afghan, leur aurait reproché de boire de l'alcool alors que c'était l'Aïd. Les détails dans un instant avec Stéphane Place à Bordeaux. Et à 19h30, nous serons en direct avec le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, Jean-Christophe Couvy. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Nous parlerons aussi de l'enquête sur la mort d'un ado de 15 ans à Romans-sur-Isère. Le principal suspect s'est rendu, il est en garde à vue. Ce nouveau camouflet du Conseil constitutionnel à la droite, les sages refusent le référendum d'initiative partagée pour consulter les Français sur l'immigration. On va vous expliquer pourquoi et juste après le journal, nous appellerons le patron des sénateurs LR, Bruno Retailleau. Très mécontent, on l'imagine. Dans ce journal, l'enquête pour soupçon de corruption à l'office antidrogue de Marseille, la déclaration de revenus sur Internet, c'est parti. Et puis le MeToo à l'hôpital éclabousse un célèbre urgentiste, Patrick Peloux. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors calme, ensoleillé, printanière, beaucoup de brouillard au lever du jour au nord et à l'ouest du pays. Demain, mais ils vont se dissiper assez vite. Et puis côté température, on va dépasser allègrement les 20 degrés dans l'après-midi. On fait un point complet à la fin du journal.
À tout à l'heure. Et donc on en sait plus ce soir sur l'attaque au couteau d'hier en plein centre de Bordeaux. Un homme a été tué, un autre blessé, ils sont tous les deux algériens. L'auteur du coup a lui été tué par les policiers. La procureure de la République vient de prendre la parole, Stéphane Place. Vous êtes en direct de Bordeaux, elle a donné davantage d'éléments sur cette affaire.
Oui, d'abord, s'appuyant sur plusieurs témoignages, Frédéric Porturi, procureur de Bordeaux, indique que l'agresseur, semble-t-il, a bien invectivé ces deux Algériens parce qu'ils buvaient de l'alcool sur les bords de Garonne.
Le mis en cause, décrit comme porteur d'un camis et d'un keffier couvrant son visage, ne laissant voir que ses yeux, frappait dans un premier temps les deux victimes à coups de poing. Ces dernières lançaient des canettes de bière en direction de leur agresseur, lequel revenait alors vers elles et les poignardait tour à tour.
C'est bien le parquet de Bordeaux qui reste saisi de cette affaire ce soir et pas le parquet national antiterroriste, mais la procureure bordelaise souligne que les investigations ne sont évidemment pas terminées.
En l'état, aucun élément ne milite en faveur d'une attaque à connotation terroriste. Toutefois, deux nouveaux éléments méritent d'être évoqués ce soir. Le premier, c'est un nouveau témoignage qui fait état d'une première altercation hier soir. Juste avant les faits, l'auteur aurait pris à partie deux individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd. S'en serait suivi alors un coup de poing et un coup de coude. Avant que l'agresseur n'exhibe un couteau, il serait finalement parti en direction du miroir d'eau. Grâce à la base de données Eurodac, l'auteur est en cours d'identification. Il serait d'origine afghane et âgé de 25 ans.
Des informations encore en cours de vérification ce soir, a insisté tout à l'heure la magistrate.
Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1. On va vous retrouver à 19h30 et on sera aussi avec Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Dans cette affaire, on ajoute que en ce qui concerne le tir des policiers contre l'assaillant, une enquête de l'IGPN est ouverte. Elle envisage la légitime défense. À Romans-sur-Isère, le suspect numéro 1 dans le meurtre d'un garçon de 15 ans est ce soir en garde à vue. Il s'est lui-même rendu. Le drame s'est produit mardi soir dans le quartier de la Monnaie. L'adolescent a reçu un coup de couteau dans le dos en voulant s'interposer dans une bagarre. Et c'est donc l'auteur présumé de ce coup de couteau qui est en garde à vue, Jean-Luc Boujon.
Oui, il a été placé en garde à vue immédiatement après s'être livré à la police en fin de matinée. Ce suspect était au centre de toutes les recherches depuis deux jours. Plusieurs témoins de la bagarre généralisée qui a eu lieu mardi soir dans le quartier de la Monnaie l'avaient désigné comme l'auteur du coup de couteau sur le jeune Zakaria. Alors c'est un homme de 27 ans, originaire de Romans, mais pas de la Monnaie, qui fait partie d'une famille défavorablement connue, comme on dit, des services de police. D'ailleurs, mardi soir, c'est en famille, avec son père et son frère, qu'ils sont venus dans le quartier de la Monnaie pour aider un jeune à régler un différent né quelques jours plus tôt. La mère de Romans, Marie-Hélène Toraval, se réjouit de ce placement en garde à vue.
Qu'il se soit rendu, bien je pense que c'était la meilleure des choses qu'il avait à faire. Il a dû le considérer aussi, puisque de toute manière, il n'avait aucune issue, il n'aurait jamais pu s'en sortir. Les enquêteurs ont vraiment mis les moyens, avec le concours aussi des habitants de la Monnaie, donc c'est une très bonne chose.
Dans cette affaire, d'autres suspects sont toujours recherchés par la police.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 à Lyon. C'est non, il n'y aura pas de référendum d'initiative partagée sur l'immigration comme le demandaient les Républicains. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel. Les sages estiment que l'une des mesures proposées par LR n'est pas conforme à la Constitution. Alexandre Chauveau, vous allez nous expliquer ça. Et cette mesure, c'est conditionner certaines prestations sociales à au moins 5 ans de résidence en France pour ceux qui ne travaillent pas et 30 mois pour les autres.
Oui, les sages s'appuient pour cela sur deux alinéas du préambule de la Constitution qui implique, je cite, « la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées ». En clair, le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas au principe même de conditionner certaines aides à une durée minimum de séjour, mais il estime que les 5 ans de résidence exigés par LR ou 30 mois pour les travailleurs étrangers représentent une durée trop longue qui priverait ces personnes de droits fondamentaux. Alors politiquement, c'est un gros revers pour LR qui a immédiatement réagi. Une petite caste a confisqué la démocratie, écrit Éric Ciotti sur X. Les Français sont interdits de parole sur l'immigration par Emmanuel Macron, ajoute le président du parti, qui dénonce une décision politique. Éric Ciotti fait ici référence au mémoire transmis le mois dernier par le gouvernement à la rue de Montpensier, dans lequel l'exécutif plaidait en effet pour censurer la démarche des Républicains. « Nous avons désormais la certitude que la lutte contre l'immigration passe par une réforme de la Constitution », commente de son côté Bruno Retailleau.
Bruno Retailleau qui d'ailleurs sera notre invité en direct juste après ce journal. C'est le président du groupe LR au Sénat. Y a-t-il des ripoux au sein de l'Office anti-stupéfiants de Marseille ? L'OFAST, qui lutte contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne, a été perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour corruption. Cette perquisition dans le prestigieux service a été menée dans la plus grande discrétion, Stéphane Burgat.
En effet, puisqu'on ne découvre l'existence de cette perquisition qu'une semaine plus tard par une fuite dans la presse, information qui nous est confirmée de sources policières. Alors, ce que l'on sait ce soir, c'est que des ordinateurs, des téléphones portables ont été saisis, mais aucune garde à vue n'a été décidée pour l'heure. Les enquêteurs sembleraient se concentrer sur une, voire deux personnes, c'est ce qu'on nous dit, mais l'heure reste aux vérifications techniques. Alors, les langues se délient très difficilement, on le sent, le dossier est épineux, et si on ignore tout des détails pour l'heure, on apprend que le signalement qui a été fait donc courant janvier proviendrait de la direction même de la police judiciaire autour de choses qui ont paru étranges à cette hiérarchie qui a donc fait remonter des informations qui méritent vérification. Et nous voici donc avec cette enquête pour corruption présumée au sein de l'OFAS, l'Office anti-stupéfiant, une unité qui est en charge, on le rappelle, des enquêtes sur les trafics de drogue de grande envergure.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Puis en ce qui concerne le trafic de drogue dans la petite commune d'Avallon dans l'Yonne, la maire de la ville, Jamila Absaoui, a été mise en examen et placée en détention provisoire. 4 autres suspects, dont 2 de ses frères, sont également derrière les barreaux. Il est 19h08 sur Europe 1. Dans un instant, la déclaration de revenus, c'est parti. Et puis des soupçons de harcèlement sexuel contre un prestigieux médecin.
Europe 1 soir.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, vous êtes apparemment nombreux à vouloir déclarer vos revenus dès aujourd'hui sur impots.gouv.fr. Le site est même tombé en panne pendant plusieurs heures. Rassurez-vous, il est désormais réparé. Alors, venons-en au concret avec vous, Barthélémy Philippe. Pour la déclaration sur Internet, on a jusqu'au 23 mai au 6 juin, selon le département. Quelles sont les nouveautés ?
Eh bien, la principale nouveauté va plaire aux accros du portable. Pour la première fois, vous pouvez déclarer vos impôts sur l'application impots.gouv, une adaptation aux nouveaux usages sur les 18 millions de foyers fiscaux imposés. L'immense majorité déclare déjà en ligne. L'autre point important, c'est l'indexation du barème sur l'inflation qui évite les augmentations mécaniques d'impôts. Le seuil d'entrée dans chaque tranche d'imposition augmente de 4,8% après 5,4% l'an dernier. Avec cette décision, le gouvernement renonce à d'importantes économies dans un contexte de crise budgétaire. Mais le ministre Thomas Cazenave assume.
Il s'agit là d'une mesure très forte pour protéger les Français face à la hausse de l'inflation. Je par exemple souligner que le montant du barème à partir duquel nos concitoyens ne sont pas imposés a été augmenté de près de 1 000 euros entre 2022 et 2024. C'est une mesure pour plus de justice fiscale.
Autre nouveauté, les dons aux associations qui défendent l'égalité femmes-hommes sont désormais éligibles à la réduction d'impôt de 66% et les dons à la Fondation du patrimoine qui ont servi à la restauration d'édifices religieux sont aussi déductibles de l'impôt sur le revenu, cette fois à hauteur de 75% du montant versé.
Barthélémy Philippe, et ajoutons que pour la déclaration papier, la date limite, c'est le 21 mai. Puisqu'on parle d'impôts, Emmanuel Macron, en visite à Bergerac, exclut l'hypothèse d'une augmentation, et cela malgré la dégradation des comptes publics. Le président a défendu sa stratégie économique qui, selon lui, produit des résultats. Il a aussi balayé tout désaccord avec son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui était à ses côtés. Un médecin très médiatique dans le collimateur de ceux qui dénoncent un MeToo à l'hôpital. Il s'agit de Patrick Peloux, l'urgentiste, est mis en cause par la professeure Karine Lacombe, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Les faits remontent aux années 2000 dans un livre sorti l'an dernier. Elle mettait en cause un médecin, Maxime Gondelot, et dans Paris Match, sorti hier, elle confirme qu'il s'agit bien de Patrick Peloux.
Je ne l'ai pas cité parce que je voulais montrer le système dans lequel se déroulaient les études de médecine, très viril, très sexué, dit-elle à l'hebdomadaire. Dans son livre, elle revient sur la canicule de 2003 et là, les propos qu'elle relate sont sans équivoque. « Te mets pas comme ça, c'est trop tentant, putain ce qu'il fait chaud. » Ou encore « Tu fais la gueule, tu as mal été baisé hier soir. » Certaines internes vont même jusqu'à changer le planning de garde pour y échapper. Il sera exfiltré en 2008 de l'hôpital Saint-Antoine devant les accusations répétées, ce qui ne l'empêche pas en 2015 de recevoir la Légion d'honneur des mains du président Hollande. Avec ces mots, c'est parce que vous avez fait le bien qu'aujourd'hui la République vous distingue. Le malaise atteint son paroxysme en 2017. Invité à l'Élysée pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, Patrick Peloux va intervenir sur scène quand la salle se prend d'une quinte de toux en signe de protestation. C'est plus tard, lors d'interviews données au Monde et à Ouest France, que Karine Lacombe dira avoir subi une main entre les cuisses, un effleurage de seins, des allusions grivoises, ou qui lui dira « De toute façon, avec MeToo, on ne peut plus rien faire ». Interrogé par Paris Match, il répond « Alors là, je suis sur le cul, je vais être obligé de lui coller un procès, je n'ai jamais agresser personne, jamais. »
Voilà, Maxime Gondelot, et désolé pour tous ces mots qui ont peut-être heurté vos chastes oreilles. C'est un nom qui vous dit forcément quelque chose. O.J. Simpson est mort d'un cancer à 76 ans. L'ancienne star du football américain avait été acquittée du meurtre de son ex-femme et d'un de ses amis après un procès qui avait captivé les Américains. C'était en 1995, on l'avait même appelé le procès du siècle. Le réseau social TikTok lance une nouvelle version en France qui va faire tiquer plus d'un parent. TikTok Lite permet à ses utilisateurs d'être rémunérés en bon cadeau Amazon rien qu'en regardant des vidéos. Une version en théorie réservée aux plus de 18 ans. Il faut justifier son âge grâce à un selfie ou un document d'identité. Mais les petits malins devraient facilement pouvoir contourner cette contrainte. Et puis, notez que le Festival de Cannes va retrouver son parrain. À 85 ans, Francis Ford Coppola sera en compétition pour son film « Mégalopolis ». 45 ans après sa deuxième Palme d'Or pour Apocalypse Now. Palme d'Or du roi des marchés financiers, Didier Hamo, c'est vous, Didier Hamo de boursier.com. Ouais. Je vous mets la pression, là. Paris termine en baisse.
Oui, c'était pas brillant. Hein. Moins 0,27% aujourd'hui, le CAC 40. 8023 points après la réunion monétaire de la Banque Centrale Européenne qui a débouché sur un statu quo sur les taux d'intérêt, sans surprise. La Banque Centrale Européenne balise plutôt le terrain en vue d'un assouplissement monétaire, sans doute au mois de juin. Le dollar, du coup, est monté. L'euro a baissé 1,07 face au billet vert. Et puis le secteur bancaire a reculé. Crédit Agricole, moins 2%, 13,77 €. BNP Paribas, moins 2% aussi, 65,50 €. Ailleurs, ça baisse partout. Francfort, moins 0,8%. Madrid, moins 1%. Milan, moins 0,9%. Le CAC 40 en baisse de 0,27%. 8023 points.
Merci Didier Hamo. Et voilà la météo avec vous, Marlène Duret. Et c'est une météo douce et ensoleillée.
Demain, oui, c'est vrai, des conditions anticycloniques, plus une masse d'air qui se réchauffe égale un soleil printanier. Alors, demi-saison oblige, les nuits seront suffisamment fraîches pour favoriser des brouillards ou des petites grisailles en fin de nuit et en début de matinée. Et on en trouvera pas mal d'ailleurs sur une moitié nord-est du pays et autour de la Garonne. Mais ça va se dissiper très rapidement. Pas mal de nuages aussi en matinée entre la Haute-Normandie, la région parisienne, les Hauts-de-France, la Champagne, le nord de la Lorraine aussi. Mais là aussi, ça va se dissiper.
Et les températures, elles continuent de grimper.
Oui, alors après la fraîcheur matinale, puisqu'on parle de demi-saison, hein, donc il fait toujours un petit peu frais le matin au printemps. L'après-midi, prévoyez 19 degrés à Brest, 21 à Reims, à Nice et Ajaccio, 22 à Lille et Clermont-Ferrand, 23 à Rennes, à Paris, Nevers et Montélimar, 24 à 26 degrés sur un petit quart sud-ouest, alors 26 à Limoges, mais aussi à Montpellier, Marseille, voire peut-être, oui, un petit peu plus du côté de la Provence. Et cette hausse des températures qui s'amplifie demain va culminer samedi sous le soleil. Ce sera la journée la plus chaude de la semaine, hein, samedi, avec pour la moitié nord, en général, 25 ou 26 degrés jusqu'à 27 en pleine d'altitude. d'Alsace et dans le Val-de-Loire. Cette fois, pas de poussière de sable pour limiter la hausse des thermomètres. Et puis sur la moitié sud du pays, 28 degrés en moyenne, jusqu'à une trentaine de degrés quand même prévus dans le sud des Landes et dans le Béarn.
Ah, c'est pas mal du tout. Merci beaucoup Marlène. Il est 19h17 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, on revient sur l'échec du référendum d'initiative partagée sur l'immigration voulu par les Républicains. Nous serons avec Bruno Retailleau.
Europe 1 soir. Europe 1 soir. 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h19 sur Europe 1. Merci à ceux d'entre vous qui nous rejoignent. On va parler du fameux RIP, le référendum d'initiative partagée sur l'immigration, lancé il y a un mois par les Républicains. Et le Conseil constitutionnel a finalement décidé de rejeter cette demande. Et on en parle avec vous, Bruno Retailleau. Bonsoir.
Bonsoir Hélène Zélani.
Vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat. Merci beaucoup d'être en direct pour réagir à ce rejet. C'est vous qui avez donc proposé cette idée après l'importante censure du Conseil constitutionnel déjà sur le projet de loi immigration. C'était en janvier. Alors je voulais avoir votre toute première réaction.
Bah, c'est la seconde censure, c'est vous qui le dites. Hein. Il y a eu une première censure, c'était au mois de janvier. C'était incroyable cette censure parce que la loi qui a été censurée avait été la loi qui avait été votée massivement aux 3/5 pratiquement à l'Assemblée nationale et aux 2/3 au Sénat. Donc cette loi démocratiquement votée et massivement votée dans les deux assemblées a été censurée. Et la loi qui était promulguée, c'est un texte, je veux le rappeler quand même pour que vos auditeurs le sachent bien, qui n'avait aucune chance de passer ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. Donc, première censure, premier déni démocratique. Et là, l'autre censure sur le RIP, c'est-à-dire le référendum d'initiative partagée, aboutit au fait qu'on prive les Français de leur expression sur une question qui est fondamentale, l'immigration. Il n'y a pas sans doute dans notre société d'autres phénomènes qui aient autant bouleversé la vie des Français, le quotidien des Français, que le thème de l'immigration, alors même qu'ils n'en ont jamais délibéré sur le fond par la voie du référendum.
Le patron de votre parti, Éric Ciotti, dit que les Français sont privés de parole sur l'immigration par Emmanuel Macron. C'est la faute du président, selon vous ?
Alors, en tout cas, il y a un alignement dans les deux censures du président de la République et du Conseil constitutionnel. Lors de la première censure, pour le texte de loi qui avait été encore une fois massivement voté, le Conseil constitutionnel en avait délibéré, avait censuré. Emmanuel Macron avait fait de gros clins d'œil, d'ailleurs, au Conseil constitutionnel. Et ses services avaient envoyé au Conseil constitutionnel une note pour dire il faut surtout censurer, etc. Et à nouveau, ça s'est reproduit, l'exécutif a envoyé au Conseil constitutionnel un nouvel argumentaire pour faire en sorte de priver les Français de référendum et indiquer au Conseil constitutionnel qu'il serait mieux précisément de censurer et de bloquer le RIP à ce stade. Donc je ne veux pas dire qu'il y a un lien de cause à effet, mais il y a en tout cas une coïncidence qui est troublante et un alignement. De toute façon, dans les faits, il y a un alignement de la position d'Emmanuel Macron, du président de la République et du Conseil constitutionnel.
Donc vous laissez entendre que les sages seraient aux ordres du président ?
Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Emmanuel Macron a fait pression sur le Conseil constitutionnel et on voit bien que tous les deux se sont réjouis en janvier d'une première censure, comme ils vont se réjouir dès maintenant en avril, au début du printemps, d'une autre censure.
J'imagine que vous avez regardé avec beaucoup d'intérêt le sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD qui montrait que 69%, quasiment 7 Français sur 10, 69% des sondés étaient favorables à ce référendum sur la politique migratoire. Donc ça apporte de l'eau à votre moulin, j'imagine.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un auditeur très très assidu d'Europe.
Et je vous
évidemment,
en félicite.
Les résultats de ce référendum ne m'avaient pas échappé. Donc, il y a effectivement cette coïncidence. D'ailleurs, comme il y avait eu une autre coïncidence, il y a eu plusieurs, non pas référendum, mais sondages qui étaient parus au mois de janvier, et les mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel étaient les mesures qui étaient parmi les plus plébiscitées par les Français. Donc, on voit qu'il y a un écart grandissant démocratique entre ceux qui nous gouvernent, ceux qui veulent imposer leur loi, et la vie des Français. et à un moment où tous les autres pays européens, beaucoup de pays européens, y compris le Danemark, qui est dirigé par le centre-gauche, hein, les sociaux-démocrates, ont considérablement durci leur législation. Et nous, ben, pas du tout. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque la première décision de censure du Conseil constitutionnel avait été donnée sur le texte de janvier, il l'avait donné le Conseil constitutionnel le même jour où on avait appris qu'en 2023, la France avait à nouveau explosé tous les records statistiques des entrées d'immigrants en France. C'est-à-dire qu'on était toujours dans le chaos migratoire. Donc, la leçon de tout cela, je vais vous dire, c'est que c'est une preuve apportée à notre moulin, finalement. On démontre que si demain, et ce sera l'enjeu, un des grands enjeux de la prochaine présidentielle, si demain on ne donne pas la parole aux Français par la voie du référendum sur la politique migratoire, il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement et il faut vraiment que les Français puissent se déterminer et puissent voter par eux-mêmes, parce que quand il y a un référendum, le Conseil constitutionnel ne peut rien dire. Alors il s'interdit évidemment de juger de la conformité à la Constitution des résultats d'un référendum.
Vous parlez de la présidentielle, c'est pas tout de suite la présidentielle, il y a quand même les européennes qui arrivent à grands pas. Vous pensez que ça peut se ressentir aussi sur les résultats des européennes ?
Écoutez, franchement, si... Et je le sais bien qu'il y a d'anciens électeurs de François Fillon qui ont voté, qui ont soutenu Emmanuel Macron. Mais quel électeur aujourd'hui de droite peut imaginer un seul instant qu'Emmanuel Macron soit un président de droite ? Regardez sur l'immigration. Regardez
à gauche, on lui dit qu'il est de droite. Alors en fait, vous dites qu'il n'est pas de droite et à gauche, on dit qu'il est de droite. Donc
Écoutez, j'essaie simplement d'apporter des arguments à ma démonstration. Pensez-vous qu'un président qui est responsable du tiers de l'endettement, de 1000 milliards d'endettement, et cet endettement, ce n'est pas le Covid. La Cour des comptes a indiqué que c'était très minoritairement le Covid. Donc c'est le quoi qu'il en coûte. C'est sa responsabilité. Ce n'est pas celle de Bruno Le Maire, ou c'est accessoirement celle de son ministre. Mais c'est d'abord la sienne. Jupiter gouverne le pays du haut de l'Élysée. Et deuxième élément, la politique migratoire. La petite loi de M. Darmanin ne fera rien. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de décembre 2024 et on assistera à nouveau à des chiffres qui seront très très importants et qui montreront qu'on n'a pas repris le contrôle du chaos migratoire.
Alors là, on a bien compris que c'était un camouflet puisqu'on vous a dit non sur ce que vous
c'est
proposiez.
C'est un camouflet, pardon, Hélène Zelen. C'est un camouflet, pas pour nous. D'abord, pour les Français.
Je comprends. Voilà. Mais alors, j'imagine que vous ne, j'allais dire un peu trivialement, vous ne lâchez pas l'affaire, puisque selon notre sondage, les Français sont très à cheval sur ce référendum sur la politique migratoire. C'est quoi l'étape d'après ? Vous allez continuer à vous battre dans ce sens ?
Bien sûr, on va continuer à se battre, on va y réfléchir, nous sommes en relation et on utilisera les moyens qui sont à notre disposition pour continuer le combat. On ne le fait pas pour nous, franchement. On le fait pour les Français parce qu'on voit bien dans l'hyper-violence qu'on a aujourd'hui, j'avais utilisé le mot de charia il y a quelques heures, c'était je crois hier ou avant-hier, pour indiquer que quand un jeune est tué pour un crime d'honneur, c'est l'application de la charia en France. Quand une jeune fille est tabassée à Montpellier, Samara, parce qu'elle s'habille à l'européenne, là encore, c'est l'application de la charia. Si on veut demain avoir une chance d'intégrer des gens qui viennent d'ailleurs, de les assimiler, c'est une question aussi de quantité. On n'y arrive plus parce qu'on accueille trop. Voilà, tout simplement. Donc les enjeux sont immenses. Il faut que les Français, les Françaises puissent déjà se saisir d'un bulletin de vote dès le mois de juin prochain pour les européennes, pour dire stop en votant pour François-Xavier Bellamy.
Voilà, on a bien compris que c'était aussi l'occasion pour vous de parler politique et des prochaines élections, et c'est de bonne guerre d'ailleurs. Hein. On vous dit un grand merci en tout cas d'avoir été en direct sur Europe 1, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains. Au Sénat, nous, on va marquer une petite pause et on va parler de cette agression au couteau à Bordeaux. On en sait désormais beaucoup plus et nous serons avec le secrétaire national du syndicat Unité SGP Police, Jean-Christophe Couvi.
Europe 1 soir. Europe 1, le journal permanent.
L'agression mortelle à Bordeaux, le parquet confirme que l'agresseur reprochait aux victimes de consommer de l'alcool le soir de la fin du ramadan. L'auteur des faits aurait 25 ans, serait d'origine afghane. Il a poignardé deux hommes de nationalité algérienne. L'un a été tué, l'autre blessé. Il a été ensuite abattu par des policiers. On y revient dans un instant. Un jeune homme soupçonné d'avoir porté un coup de couteau mortel à un adolescent de 15 ans à Romans-sur-Isère mardi est en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 27 ans. Il s'est rendu à la police. Le Conseil constitutionnel rejette la demande de référendum d'initiative partagée des Républicains. Nouveau revers pour la droite après la censure des dispositions LR sur la loi immigration. Selon les sages, les mesures proposées par LR portent une atteinte disproportionnée aux droits de protection sociale des étrangers en situation régulière. O.J. Simpson est mort, l'ex-star du foot américain dont le procès pour double meurtre en 1995 avait captivé l'Amérique avant son acquittement, est mort d'un cancer à l'âge de 76 ans. Et puis, levé de rideau sur la sélection du festival de Cannes. À 85 ans, Francis Ford Coppola revient en compétition avec Mégalopolis. 45 ans après sa deuxième Palme d'Or, le 77e Festival de Cannes, ce sera du 14 au 25 mai prochain avec Europe 1.
19h-20h, Europe 1 soir.
Et à 19h33, on revient sur cette agression au couteau d'hier soir en plein centre de Bordeaux, dans le quartier du Miroir d'Eau. C'est un lieu de promenade très prisé sur les quais de la Garonne. Un homme a été tué, un autre blessé. L'assaillant a lui été tué par les policiers. Bonsoir Jean-Christophe Couvy.
Bonsoir.
Merci d'être en direct dans Europe 1 soir. Vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. On dit merci également à Stéphane Place d'être avec nous. Bonsoir.
Bonsoir Hélène, bonsoir à tous.
Vous êtes correspondant d'Europe 1 à Bordeaux. Alors Stéphane, si vous le voulez bien, je veux bien que vous reveniez sur le mobile qui serait à l'origine de cette attaque au couteau.
Alors, ce qu'a expliqué la procureure de la République de Bordeaux ce soir, Frédéric Portori, c'est que d'après les éléments qui ont été recueillis et plusieurs témoignages notamment, a priori, c'est un reproche fait autour de la consommation d'alcool qui est à l'origine de ce qui s'est passé hier soir, puisque le parquet de Bordeaux explique que celui qui est mis en cause, l'assaillant, qui a ensuite été abattu par les policiers, est décrit comme porteur d'un camis et d'un kéfier qui couvrait son visage, ne laissant voir que ses yeux. Dans un premier temps, il s'approche donc de ces deux victimes algériennes, de ces deux hommes qui tranquillement sont assis sur ces pelouses à proximité de la Garonne, et il les invective en raison, d'après les éléments de l'enquête que l'on connaît pour l'instant, de leur consommation d'alcool. Et puis, il va les frapper dans un premier temps avec ses poings. Et puis, il s'éloigne. Là, les deux personnes qui viennent d'être frappées se relèvent et lui lancent des canettes de bière. Mais l'agresseur ne l'entend pas de cette oreille. Il revient vers elle. Il sort un couteau à cran d'arrêt. Et là, il les poignarde tour à tour. C'est une scène abominable. Le premier, donc, est poignardé à mort. Il va succomber à ses blessures. Et le second est grièvement blessé. Aujourd'hui, il est soigné au CHU de Bordeaux. Ses jours, nous a-t-on indiqué, ne sont plus en danger. La première victime donc tuée était âgée d'une trentaine d'années, la seconde d'une vingtaine d'années.
Alors, merci Stéphane. Vous parlez de scènes abominables, Jean-Christophe Couvy. J'ai volontairement rappelé que ça s'était passé dans un lieu de promenade très connu des Bordelais, sur les quais de Garonne. Un homme avec un cran d'arrêt, ça fait très très peur quand même.
Bah écoutez, oui, Bordeaux, 19h30, le soir, où il fait beau, c'est une ville où c'est bon vivre, la Garonne, vous savez, surtout les quais qui ont été tout refait à neuf, le Miroir d'Eau, c'est le centre névralgique de Bordeaux. Donc les gens sont sur les terrasses, il y a des joggeurs qui courent, les cyclistes, enfin voilà, c'est très très bon enfant. Et puis oui, alors on a l'habitude aussi que des fois, il y a des petits zonards qui viennent, qui traînent, enfin c'est quand même pas la haute criminalité. Et là, d'un seul coup, bah, forcément, ça fait un... Ça fait tâche, quoi, parce que tout le monde a été surpris. D'ailleurs, les gens ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Certains ont cru même qu'il y avait une crise cardiaque. Enfin, ils n'ont pas compris la scène, en fait. Et c'est souvent comme ça. Quand l'horreur s'incruste dans un moment paisible, eh bien, vous ne comprenez pas. Vous mettez un moment à comprendre et à réagir. Et donc, voilà. Là, effectivement, les policiers sont arrivés, ils sont intervenus pour neutraliser l'assaillant.
Voilà. Et d'ailleurs, c'est là-dessus aussi que je voulais vous interroger. Il y a une enquête confiée à l'IGPN. Pour vous, il n'y a pas de doute sur le fait que la légitime défense sera reconnue ?
Pour nous, déjà dès hier soir, pour nous, c'était carré. Tous les collègues sur place nous l'ont dit. Et puis, c'est la façon de procéder. Voilà, le code de sécurité intérieure est bien clair. Quand on a un parcours meurtrier, il y a des badauds qui sont autour. Quand les collègues sont venus pour essayer d'isoler l'assaillant. Il y a une cycliste qui passait par là, qui avait mis pied à terre et qui aurait pu être une victime potentielle. Donc en fait, les fonctionnaires de police ont très bien agi. Et ils ont agi comme on nous l'apprend aussi à l'école de police, comme on nous l'apprend dans les tueries de masse. Et puis il faut savoir que depuis 2015 et les événements malheureux à Paris, on a changé d'air, on a changé de logiciel. Et aujourd'hui, tous les jours, on se prépare à des attentats.
Alors là, il faut bien préciser, Stéphane Place, la procureure a été claire, elle a exclu le motif terroriste, on est bien d'accord. Hein.
À l'heure où l'on parle, elle l'a dit très clairement ce soir, effectivement, il n'y a pas de connotation terroriste. Pour autant, l'enquête, elle se poursuit. Vous imaginez bien qu'il y a, et encore actuellement, des auditions de témoins. Et la procureure de la République de Bordeaux, Frédéric Portory, a d'ailleurs indiqué que toute personne qui pourrait apporter son témoignage était prié de se manifester auprès des services de police. Donc, ce qui se passe là, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, il faut être très rigoureux et très carré là-dessus, il n'y a pas de connotation terroriste. L'enquête continue et donc il peut y avoir d'autres éléments. Il y a notamment, elle l'a expliqué tout à l'heure, un nouveau témoignage qui a été recueilli pas plus tard que cet après-midi, qui fait état d'une première altercation hier soir, juste avant les faits que nous évoquions, et une altercation où apparemment c'était le même motif, puisque l'auteur aurait pris à partie deux individus parce qu'ils buvaient du rosé en ce jour d'Aïd, et s'en serait suivi un coup de poing, un coup de coude, avant que l'agresseur n'exhibe son couteau en leur demandant de venir se battre. Et puis finalement, explique toujours la procureure de la République de Bordeaux, l'agresseur serait parti, aurait poursuivi son chemin en direction du miroir d'eau où l'on sait malheureusement ce qui s'est passé. Donc des auditions sont toujours en cours. Et puis par ailleurs, grâce à la base de données Eurodac qui contient les empreintes digitales des demandeurs d'asile enregistrés dans les États membres de l'Union européenne et des pays associés d'ailleurs, eh bien l'auteur est en cours d'identification. On n'en sait pas beaucoup plus parce que c'est vraiment, ça se passe en ce moment, il faut tout vérifier, mais il serait, c'est ce qu'a dit Frédéric Portory, d'origine afghane et âgé de 25 ans.
Et il semble que ce serait un demandeur d'asile, hein, vraisemblablement.
Tout ça est en cours,
c'est
vraiment
en cours.
Hein, de vérification. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que judiciairement, aujourd'hui, le parquet national antiterroriste qui n'est pas saisi est en veille. C'est-à-dire qu'on évalue au fur et à mesure que les éléments de l'enquête apparaissent.
Alors, Jean-Christophe Couvy, il y a ce mobile qui interroge, évidemment, surtout qu'il arrive après une série de faits divers. Hein, la jeune Samara, agressée apparemment parce qu'elle ne portait pas le voile, l'agression d'une autre adolescente de 13 ans lundi dans un bus parce qu'elle respectait pas le jeûne du Ramadan. Là, apparemment, deux Algériens agressés très violemment puisque l'un en est mort parce qu'il buvait de l'alcool.
Oui, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une pression communautaire, même entre communautés et religieuses. Certaines personnes n'acceptent pas que l'islam de France, qui est plutôt modéré, qui est un islam moderne, et certaines personnes, effectivement, viennent interférer en disant qu'eux, ils ont un islam plus rigoureux, ils voudraient l'imposer. Donc aujourd'hui, on a cette problématique-là. Nous, policiers, on le voit. D'ailleurs, même nos collègues à nous, on a des collègues qui pratiquent l'islam et qui nous disent qu'eux aussi ont des pressions. Moi, j'ai des amis d'originaire du Maroc. Voilà, quand ils vont dans certains quartiers, on vient à leur contact savoir s'ils mangent halal, pourquoi ils ne mettent pas un voile, pourquoi les enfants ne vont pas à la mosquée, etc. Enfin, on sent qu'il y a un courant islamique, hein, mais c'est pas encore une fois la totalité des personnes qui pratiquent l'islam, surtout en France, voilà, où c'est un islam plutôt modéré, moderne, de la modernité des Lumières, entre guillemets. Mais là, on sent qu'il y a un choc des cultures avec des personnes qui viennent de pays, qui viendraient de pays étrangers avec un islam plutôt rigoureux, plutôt culturel, où voilà, D'ailleurs, en Afghanistan, c'est pays de guerriers, on a des armes, des couteaux. Et effectivement, il y a un choc avec cet islam modéré ou des personnes qui ne sont pas concernées par une religion en France. Et là, c'est ce choc-là. Et donc, du coup, malheureusement, certaines n'acceptent pas la différence.
Alors, le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, estime que l'heure n'est pas aux commentaires et à la récupération. Hein. Et il y a l'opposition municipale qui dénonce le fait que la police municipale ne soit pas armée.
Alors, vous savez, Hélène,
écoutez, Ah pardon.
Alors Stéphane, allez-y, on a peu de temps, donc allez-y brièvement.
Non,
Stéphane.
Je disais simplement, Hélène, c'est un débat qui est présent à Bordeaux depuis plusieurs années, mais effectivement, en fait, le raisonnement de Pierre Hermic, c'est de dire la police municipale n'a pas les missions de la police nationale, elle est là pour la tranquillité publique, et quand il parle d'armement, il dit d'armement létal, parce qu'après, ils ont d'autres instruments en leur possession, hein, mais je pense notamment à des bâtons de défense, des choses comme ça, mais Jean-Christophe Couvi connaît ce sujet-là sur le bout des doigts.
Bah justement, Jean-Christophe Couvi, quand vous entendez cette critique de l'opposition, le fait que la police municipale ne soit pas armée, ça vous paraît normal ou vous pensez que c'est un manque ?
Alors moi, personnellement, enfin nous, notre syndicat, et d'ailleurs avec Force Ouvrière, parce qu'on a aussi des représentants des polices municipales, on en discute souvent, eux, ils sont pour l'armement. Aujourd'hui, en fait, quand vous portez un uniforme, peu importe pour un terroriste, si vous êtes policier municipal, si vous êtes policier national, y compris d'ailleurs, malheureusement nous aussi, pour nos fonctionnaires administratifs qui ont été attaqués dans les commissariats à Rambouillet et qui ont malheureusement perdu la vie. Dans la tête d'un terroriste, vous portez un uniforme, vous êtes un policier. Peu importe, ils font pas la différence. Et donc, si vous n'êtes pas armé, vous êtes une cible supplémentaire. Et si vous êtes les premiers intervenants, rappelez-vous à Nice, où c'est les policiers municipaux qui sont intervenus pour mettre fin à un carnage dans une église, si vous n'êtes pas armé, comment vous faites face à un individu qui a un couteau ? Au moins, à minima, avoir un taser, à minima, et après, vous savez, avec un bâton de défense sur une personne qui est armée, qui est déterminée, vous perdez à chaque fois.
Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1 et merci de vos lumières Stéphane Place en direct de Bordeaux. Dans un instant, on va marquer une pause. On sera avec le président de la Knesset, le Parlement israélien, qui était l'invité de Laurence Ferrari sur CNews. Je vous donne également ce rendez-vous à ne pas manquer lundi. Ce sera une journée spéciale Notre-Dame de Paris, 5 ans après. Le 15 avril 2019, la cathédrale brûlait sous les yeux du monde effaré. Alors comment ce traumatisme a-t-il été surmonté ? Pourquoi autant de dons de personnes de toute confession ? Notre-Dame de Paris, 5 ans après, journée donc spéciale lundi sur Europe 1.
Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zelani.
19h44 sur Europe 1, plus de 6 mois de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Les Américains viennent de prévenir qu'une attaque massive de l'Iran contre Israël était imminente. Dans ce contexte extrêmement tendu, Laurence Ferrari recevait tout à l'heure Amir Ohana sur CNews. C'est le président de la Knesset, le Parlement israélien. Écoutez cette interview.
So for 133 hostages,
pour 133 otages que vous avez mentionnés, dont 3 sont français, le 7 octobre ne s'est jamais terminé. C'est une tragédie qui continue chaque jour et chaque heure.
We try to do everything in our power to release them.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour les libérer.
We are doing it in two vectors.
Et nous le faisons ça avec de deux manières. Premièrement, il y a un vecteur militaire et deuxièmement, il y a un vecteur diplomatique. Et nous pensons que en exerçant ce type de pression, nous pouvons vraiment mettre le Hamas contre le mur pour ce qu'ils finissent par avoir un accord avec nous. Et je dois dire que certaines déclarations qui disent que nous pouvons arrêter la guerre, de demander un cessez-le-feu même sans libération des otages, réduit nos efforts et cette pression que le Hamas devrait ressentir. Et cela ne nous aide pas pour libérer les otages. Nous croyons toutefois que c'est possible et que nous ferons tout ce que nous pourrons.
Ma question, c'était: qu'est-ce que vous attendez de la France, très précisément, et du président Macron ?
Eh bien, je viens de le dire, certaines déclarations que nous entendons de certains leaders dans la République française, mais aussi dans d'autres pays, sont contre-productives. Dire que nous devrions stopper Israël, qu'il faudrait un cessez-le-feu, qu'il faut reconnaître unilatéralement l'État palestinien, ou qu'il faudrait même avoir un embargo contre
Israël.
Tout cela va à l'encontre des intérêts des otages et de leur libération. Et pourquoi ? Parce que le Hamas entend ces messages et dit « Eh bien, je n'ai pas besoin d'avoir un accord et de cesser le feu. » Ce que le Hamas veut, donc le monde va arrêter Israël et le Hamas pourra rester avec les otages et même avoir d'autres avantages. Il faut aussi exercer des pressions diplomatiques pour dire qu'on défend Israël, qu'on est de son côté dans ses efforts pour libérer les otages
pour ramener la sécurité pour ces civils. Nous sommes unis tous ensemble jusqu'à ce que cette attaque soit atteinte. Voilà quelles sont nos attentes, non pas seulement de la part de la France, mais en fait du monde libre en général. Car ce n'est pas un conflit local entre Israël et le Hamas. Dans notre région, l'Israël représente quelque chose. Cette chose, c'est quelque chose que nous partageons, c'est le monde libre. Nous partageons les valeurs de la liberté, liberté pour les femmes, pour les personnes LGBT, liberté d'expression, même pour ceux qui s'y opposent. Alors que représente l'Iran? L'Iran est contre toutes ces libertés et de nombreuses autres
encore.
L'Iran manipule le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les milices. Il y a de nombreuses personnes qui sont manipulées par l'Iran. Encore, il faut parler par ce problème qui est l'Iran.
Encore une question à propos des otages. Est-ce que vous avez un espoir de les retrouver vivants? Selon les informations du Wall Street Journal, la majorité de ces otages ne seraient plus en vie. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet?
Out of the 133 hostages, 33 otages, nous savons que certains sont vivants et que d'autres sont morts. Nous pensons que plus de la moitié sont toujours vivants, pas bien plus que la moitié, non pas la grande majorité, mais en tout cas la majorité. C'est ce que nous pensons et nous opérons comme cela.
Est-ce que vous avez été surpris, pour ne pas dire horrifié, par la vitesse à laquelle le monde entier a oublié le 7 octobre pour ensuite se focaliser sur ce qui se passe dans le territoire de Gaza?
The first two visitors I accepted were the president que j'ai accepté, c'était les présidents du Parlement européen et de la Commission européenne. Tamizola et van der Leyen, ils sont venus le vendredi suivant après le 7 octobre. C'était encore des visions vraiment très difficiles sur le terrain. Nous travaillions dans les kibbutzim et nous pouvions voir qu'il y avait encore des traces de sang. Les corps des terroristes aussi, leurs cadavres étaient toujours là. Ce n'était pas seulement la vue, c'était aussi l'odeur qui était difficile. Et donc, nous avons entendu des commentaires très positifs, encourageants de leur part, qu'ils ont mis aussi sur les réseaux sociaux. Et ensuite, j'ai lu les commentaires. Et cela m'a horrifié de voir. Ensuite, dans la première semaine, même avant que nous commençons notre campagne militaire contre le Hamas sur la bande de Gaza, j'ai vu à quel point l'antisémitisme explosait, comment il y avait de la haine contre les victimes. Car nous n'avons pas recherché cette guerre, nous ne l'avons pas demandé. Le 6 octobre, il y avait des enfants qui dormaient tranquillement dans leur lit à Gaza et aussi Israël. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Et à l'époque, j'ai dit aux dirigeants dans les semaines suivantes, il est facile de nous défendre quand nous nous sommes fait attaquer, lorsque nous enterrons nos morts. Et nous n'allons pas nous arrêter là, cette douleur, car nous n'avons pas le luxe. Nous allons battre. Nous allons nous battre et gagner. Et c'est là où nous avons besoin de vous à nos côtés. Car ça ne va pas être difficile de voir ce qu'il se passe à Gaza. Nous savons comment le Hamas opère. Non seulement ils ciblent les civils, mais ils les ciblent aussi en opérant depuis des zones qui sont très peuplé, ou alors depuis des tunnels qui sont sous des écoles, des mosquées, des hôpitaux, en espérant qu'Israël ne puisse pas se défendre parce qu'il opère comme cela. Et le monde donc arrêtera Israël parce que le monde ne veut pas voir des civils qui se font massacrer.
Est-ce que vous redoutez, Monsieur le Président de la Knesset, une attaque de l'Iran comme contre Israël, comme le renseignement américain l'affirme aujourd'hui?
Indeed, we have seen those reports. Nous avons vu ces rapports.
We say very clearly, if we will be attacked by Iran,
si nous sommes attaqués par l'Iran, nous répondrons.
The thing to remember is that we shall not stand alone.
Oubliez par contre que nous ne devrions pas être seuls.
I expect our friends of the free world to convey the very same message.
Du monde libre transmettent exactement le même message.
Their words.
Et qu'ils joignent le geste à la parole si, malheureusement, une telle attaque devrait se produire.
Le terrorisme islamiste frappe en Israël comme en France, comme dans toute l'Europe. Est-ce que vous dites que nous faisons face au même ennemi, finalement, en France et en Israël? France et en Israël, en votre avis?
I believe that the answer is yes.
Je pense que oui.
The radical Islam, the fundamentalists, the forces of darkness,
that works
against those freedoms that I just mentioned.
Agissent contre les libertés que je viens de mentionner.
Are enemies of France as well as enemies of Israel.
De la France tant autant que des ennemis d'Israël. Et l'Iran, qui dirige toutes ces marionnettes, toutes ces organisations terroristes, n'est pas seulement notre ennemi.
It is the enemy of the free world. We are in fact.
Et en fait, pour eux, nous sommes comme un petit Satan, tandis que les États-Unis sont le grand Satan. Mais les États-Unis aussi symbolisent le monde libre dont nous faisons tous partie. Donc je pense vraiment que le monde nous regarde. Et si nous perdons cette guerre, ce que je n'espère pas, nous pouvons simplement imaginer alors ce qui se passera ensuite sur le territoire européen.
Une partie des Israéliens réclame la tenue d'élections législatives pour renouveler la Knesset qui a fêté ses 75 ans cette année. Est-ce nécessaire? Est-ce que c'est souhaitable à vos yeux? Ou est-ce que vous considérez qu'il est beaucoup trop tôt au milieu de la guerre que vous êtes en train d'opérer?
This is a no less than a catastrophe.
Je crois que c'est rien moins qu'une catastrophe.
This would be a clear invitation for our enemies.
Une invitation tendue à nos ennemis pour nous frapper. Et pourquoi?
We have expanded the coalition following the October 7th war.
We are currently
72 seats.
Aujourd'hui, il y a 72 députés dans cette coalition.
Our colleagues from the opposition, mainly the head of the opposition,
de l'opposition, Yair Lapid, de rejoindre cette coalition pour avoir un front uni face au monde et face à nos ennemis. Car si nous ne faisons pas cela, si malheureusement nous organisons des élections qui, bien sûr, sont toujours polarisantes par leur nature et que nous nous battons les uns contre les autres, alors ce sera une invitation au Hezbollah. Le Hezbollah saura que c'est le bon moment, que Israël est faible et qu'il peut frapper. Et ce serait une tragédie dont on se rappellera pendant des siècles. Donc, j'en appelle vraiment à mes amis de rejoindre notre coalition pour l'élargir et pour présenter un front uni, car c'est vraiment le moment le plus crucial pour notre pays. Et c'est ce dont nous avons besoin. Et je pense que dans des siècles, une fois que nous serons déjà tous décédés depuis longtemps, les gens liront des livres d'histoire et ils ne s'intéresseront pas à quels sont le nom des dirigeants, mais par contre, comment ça se fait qu'Israël est parvenu à gagner ou malheureusement à perdre cette guerre. Et nous gagnerons si nous restons unis, donc il est hors de question d'organiser des élections. Pour moi, ce serait une catastrophe.
Une question encore sur le plan militaire. Benjamin Netanyahou a confirmé qu'il y aurait bien une offensive sur Rafah, le dernier bastion du Hamas. Vous confirmez qu'Israël ira au bout de cette guerre? Est-ce que vous avez une idée du terme, de la fin de cette guerre, de cette opération armée?
There is absolutely no way we will keep these four Hamas battalions currently in Rafah.
Toujours vraiment pas possible que ces bataillons du Hamas à Rafah ne seront pas ciblés, car sinon ce serait perdre la guerre. Nous sommes conscients qu'il y a plus d'un million de civils qui ont été évacués de la partie nord de la bande de Gaza qui sont actuellement à Rafah. Ils ont été évacués parce que nous leur avions dit que cela allait être une zone de guerre, qui sera dangereuse, nous ne voulons pas vous blesser, donc veuillez quitter cette zone, et donc ils sont allés dans le sud. Maintenant, nous travaillons sur un plan que nous allons présenter dans un futur très proche pour évacuer la grande majorité de la population vers d'autres zones de la bande de Gaza. Et nous regardons aussi quels sont les besoins humanitaires et ensuite nous nous engagerons contre les bataillons du Hamas. Il n'y a pas d'autre moyen de gagner contre le Hamas si nous ne nous attaquons pas à chacun de ces bataillons.
C'était Amir Ohana, président de la Knesset, le Parlement israélien. Il était l'invité de Laurence Ferrari dans Punchline sur CNews.
Europe 1 soir.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 soir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous laisse avec La France bouge, présentée par Elisabeth Assayag.
C'est la nouvelle Opel Corsa électrique?
Yes, of course.
Avec plus de 400 km d'autonomie?
Yes, of course.
Elle est cool à conduire?
Yes.
Dès 99 € par mois en électrique ou essence?
Yes, of course.
Découvrez nouvelle Opel Corsa disponible immédiatement dès 99€ par mois. Yes, of course. Corsa électrique Corsa LLD 24 mois, premier loyer 3 000€, bonus écologique 7 000€ déduit. Offre à particulier jusqu'au 30 avril, si acceptation par crédit par. Détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
C'est si bon.
Charolaise.
Bartonaise.
À l'orléanaise.
À la bolognaise.
À la lyonnaise.
À la mayonnaise.
À la nivernaise.
À la landaise.
À la bordelaise.
À la rochelaise.
À la marseillaise.
À la basquaise.
À la piémontaise.
À la castraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches. Et oui.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque 1 salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Europe 1, il est 20h. Le journal de Maëlle Hassani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Le point de départ de l'attaque au couteau à Bordeaux hier soir est un motif religieux. L'assaillant, probablement un Afghan de 25 ans, demandeur d'asile, a reproché aux 2 victimes d'origine algérienne de boire de l'alcool le jour de l'Aïd avant de les agresser. Bilan, 1 mort et 1 blessé grave. L'auteur a été abattu par la police. Bruno Vincendon est l'un des agents qui était en patrouille non loin du lieu de l'attaque. Il raconte ce qu'il a vécu hier soir.
Quand on descend de notre véhicule, on entend les coups de feu de notre collègue faisant feu et on voit le mec s'effondrer à terre devant notre collègue en fait. Bien sûr, on pense toujours à du terrorisme. Hein. Au départ, on part sur un assaillant qui donne plusieurs coups de couteau à plusieurs personnes sur le miroir d'eau. Un assaillant en fuite, un assaillant porteur d'une djellaba. Nous, quand on arrive sur les lieux, donc le collègue fait feu, donc on part en courant au contact. Donc, effectivement, vous avez l'adrénaline qui monte fort. On a un devoir d'intervention rapide, parce que s'il s'agit d'un périple de masse, il faut intervenir rapidement pour neutraliser l'individu. Quoi. Là, on avait déjà 2 victimes sur le miroir d'eau, rien ne nous disait que l'individu n'allait pas en faire d'autres. Et quand mon collègue intervient, en fait, il est face à l'individu qui a pris le temps de se dissimuler le visage. Et malgré les injonctions que lui fait le collègue de jeter son arme, l'individu fonce sur mon collègue avec le couteau. Il n'y a pas de routine dans la police et on ne doit pas s'encrouter. Il faut qu'on reste toujours vigilant. On est là pour protéger la population française, quelle qu'elle soit.
Bruno Vincendon, l'un des policiers qui est intervenu hier soir durant l'attaque au couteau à Bordeaux, qui a donc fait 1 mort et 1 blessé grave. L'identification précise de l'assaillant, abattu par la police après les faits, est toujours en cours. L'imam de Beaucaire, condamné en appel à 12 mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme et provocation à la haine. Ce religieux, interpellé à son retour de la Mecque fin octobre, avait relayé des propos appelant à combattre et